L'instant philo. Assurément, les religions ont une face glorieuse. Elles ont été civilisatrices. Elles ont nourri l'esprit des hommes, inspiré des œuvres marquantes dans tous les domaines de l'art et ont permis de faire advenir de grandes choses dans l'histoire. Mais elles ont aussi une face obscure qui peut légitimement nous faire très peur. Toutes les religions sans exception peuvent en effet sombrer dans le fanatisme et la violence. Les exemples ne manquent pas. Si nous désirons avoir une description à charge de tout ce que le christianisme a pu inspirer comme action violente, obscurantiste et liberticide, la lecture du traité sur la tolérance de Voltaire est vraiment édifiante. L'islamisme, déformation intégriste et assez récente de l'islam, impose dans certains pays des normes de comportement assez délirante et une morale sexiste et violente. Les libertés et l'égalité sont évidemment malmenées. On sait également que partout dans le monde, actuellement, des individus se réclamant de cette mouvance commettent des meurtres et des massacres. En France, dernièrement, un professeur d'histoire-géographie et des fidèles dans une église catholique ont été tués dans des conditions d'une rare brutalité. À Kaboul, en Afghanistan, des islamistes ont tiré à bout portant, il y a une dizaine de jours de cela, sur des étudiants qui avaient le tort d'aller s'instruire. Au Cameroun, au Tchad et au Nigeria, les fanatiques de Boko Haram, mouvement extrémiste, dont le nom signifie « l'éducation est péché », ont fait déjà plus de 30 000 victimes depuis 2009 dans cette partie de l'Afrique. Il est clair aussi, dans un autre genre, qu'un film comme « Kadosh » d'Amos Gitai montre que les formes intégristes du judaïsme n'ont rien à envier aux autres formes d'extrémisme religieux. Enfin, pour compléter ce rapide tour des horreurs humaines, on sait qu'en Birmanie actuellement, les Rohingyas sont persécutés. Il s'agit d'un peuple qui a le tort, aux yeux des intégristes bouddhistes, d'être différent et traditionnellement de confession musulmane. Alors, inutile de multiplier à l'infini les exemples. On le voit, les croyances religieuses peuvent faire peser des menaces très concrètes sur les libertés, la paix civile, la justice et l'égalité entre citoyens. Tolérance et laïcité constituent les deux grandes réponses politiques à ces menaces. Elles sont toutes deux des dispositifs qui cherchent à garantir une cohabitation pacifique d'individus ayant des options spirituelles différentes au sein d'une société libre et juste. Il paraît donc indispensable, en ces temps troublés et confus, de nous pencher sur leur sens profond et leur valeur irremplaçable. La nécessité de la tolérance se fait sentir lorsque plusieurs croyances, au moins deux, s'affirment et finissent par entrer en conflit au sein d'une société. En Europe, l'affichage de 95 thèses à Wittenberg le 31 octobre 1517 par un moine augustin nommé Martin Luther, point de départ du protestantisme, va conduire à des affrontements sanglants entre catholiques et protestants. L'édit de Nantes, signé par Henri IV en 1598, est un édit de tolérance. Il visait à pacifier en France, qui a connu les massacres de la Saint-Barthélemy, les relations extrêmement tendues entre catholiques et protestants. avec l'édit de Versailles de 1787, autre édit de tolérance, Louis XVI redonne aux Huguenots des droits et une protection qu'ils avaient perdus. Tolérer, on le voit dans ces exemples, c'est tout d'abord accepter, toujours avec une certaine réticence finalement, d'autres pratiques religieuses. Souvent, en conservant une religion officielle qui peut de nouveau vouloir s'imposer à tous, comme le montre la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV. La tolérance est donc le fait du prince. Elle est accordée, ou bien refusée selon son bon vouloir. Elle ne protège que temporairement. L'épée de Damoclès des persécutions pèse toujours sur les croyances minoritaires. Enfin, il existe des versions différentes de la tolérance qui montrent qu'il s'agit d'un dispositif politique très conjoncturel. La tolérance est restreinte quand elle accepte certaines options spirituelles et en rejette d'autres. John Locke, dans sa lettre sur la tolérance, estime ainsi que la tolérance de l'Église anglicane ne doit pas concerner les catholiques, qui font obédience à un autre chef d'État que le souverain de Grande-Bretagne. Elle ne doit pas non plus concerner les athées, car, dit-il, on ne peut accorder foi à ceux qui n'ont pas foi en Dieu. Mais il existe aussi, heureusement, une tolérance au spectre plus large. Le philosophe Pierre Bayle estime ainsi qu'un État doit tolérer toutes les options au sujet de la religion, y compris l'athéisme. On retiendra de toutes ces considérations que la tolérance cherche à permettre, de façon conjoncturelle et parfois assez arbitraire, une coexistence pacifique de différentes religions au sein d'une même société. La tolérance présente déjà l'immense avantage d'éviter bien des violences et des injustices, mais cette réponse politique, on l'a vu, a ses fragilités et ses limites. La laïcité a également une fonction de pacification d'une société civile dans laquelle des religions différentes doivent cohabiter. Elle va dans le même sens que la tolérance, et même plus loin, car elle est un dispositif politique plus complet, comme on va tenter de le montrer. Historiquement, la laïcité est un principe qui a pu s'incarner dans la constitution de divers pays, y compris ceux où les citoyens sont majoritairement musulmans, comme dans la Turquie de Atatürk, ou en Syrie et en Irak avec le parti Baas. En France, la laïcité est définie par la loi de 1905, dite loi de séparation des églises et de l'État, dont le premier article est le suivant. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. On remarque que le texte ne parle pas de liberté religieuse, mais de liberté de conscience. Cette dernière vaut pour les croyances, mais aussi pour les options philosophiques comme l'athéisme. La laïcité diffère ainsi de la forme restreinte de la tolérance. Enfin, conformément à l'idéal de liberté de conscience, cet article énonce que la laïcité garantit le libre exercice des cultes. Elle ne les interdit évidemment pas. C'est un contresens, en effet, de confondre laïcité et athéisme. Les États laïcs ne peuvent être assimilés sans une grande mauvaise foi, c'est le moment de le dire, à ces républiques socialistes soviétiques qui, à une époque, ont imposé l'athéisme et persécuté les religions. La laïcité, au nom de la liberté de conscience, donne tout loisir de croire ou de ne pas croire aux citoyens, à condition que ces derniers respectent la loi civile et lui accordent la priorité sur la loi religieuse dans l'espace public. Donc, ni athéisme d'État, ni religion officielle. Pour assurer la liberté de conscience, la République se doit de rester dans la neutralité face à la question religieuse. Cette neutralité de l'État et de ses fonctionnaires ne s'applique pas toutefois à la société civile qui ne serait sinon plus libre. Les citoyens ont évidemment la liberté d'exprimer ou d'affirmer leur attachement à telle ou telle conviction, qu'elle soit politique, religieuse ou philosophique, à condition que cela se fasse dans le strict respect de la loi civile et sans troubler l'ordre public. Ainsi, la République française garantit et protège la liberté de culte, mais également la liberté d'expression de tous ceux qui estiment, par exemple, que la croyance religieuse est une illusion. La séparation des églises de l'État est donc un bon antidote contre le fanatisme religieux de tout poil. Avec la laïcité, et c'était déjà en partie le cas avec la tolérance, les religions se purgent en effet du désir de dominer, de s'imposer à tous et de régir les mœurs de toute une société. Les religions évitent ainsi de s'enfermer dans une mentalité plus obsédée par la maîtrise des êtres humains et des choses terrestres que par la spiritualité et le perfectionnement personnel. La séparation des églises et de l'État serait ainsi comme un divorce réussi, et même providentiel, où ceux qui ne faisaient pas bon ménage et s'empêchaient mutuellement de s'épanouir trouvent, sans nuire à l'autre, enfin leur voie. Vous pourrez trouver le texte de cette intervention, qui n'a pas du tout la prétention d'être exhaustive sur un sujet aussi riche, ainsi que les références musicales utilisées, sur le site de l'Association de la Maison de la Culture du Havre. Bonne continuation à vous.